Bonjour et bienvenue à Europe Roll sur Radio Fadjet. Aujourd'hui, c'est moi, Nora, qui vais vous présenter notre émission spéciale vélo. Et oui, les Vélib sont arrivés à Nancy. Vous les avez sans doute déjà aperçus. Ils ont rejoint les Vélostan en location de couleur rouge. Ces tout nouveaux Vélib d'un vert profond, mis en service depuis septembre 2008, me donnent vraiment envie de savoir à quand les vélos orange. Ces machines à flirter entre route et trottoir ont effectivement envahi notre quotidien. Pour peu que certains anciens en possèdent un personnellement, il devient pratiquement impossible d'échapper à la nouvelle mode. Mais avant de vous expliquer tout ça, on écoute les news récentes. Alors Simon, quelle est l'actualité de cette semaine ?
Bonjour Nora, bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, on parlera des premières réactions européennes face à la crise en République démocratique du Congo, mais aussi de la réforme des universités en Italie, et à la fin de ce journal, de la fermeture de l'aéroport Tempelhof de Berlin. Le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne s'est donc réuni vendredi matin à Bruxelles pour examiner les possibilités de réaction de l'Union face au désastre humanitaire qui menace la République démocratique du Congo. Malgré la volonté française d'envoyer une force à but humanitaire, la voie purement diplomatique a été privilégiée par les 27. Des affrontements entre armées et rebelles ont poussé depuis le début de la semaine des dizaines de milliers de personnes sur les routes. Italie maintenant, où des centaines de milliers de personnes ont manifesté à Rome jeudi 30 octobre, à l'appel des trois principales confédérations syndicales du pays. Cette nouvelle journée de mobilisation est dirigée contre les coupes budgétaires du gouvernement de Silvio Berlusconi. Mercredi a en effet été adopté par le Sénat un texte très controversé de la ministre de l'Éducation qui apporte d'importants changements à l'école, en particulier dans le primaire. Les études l'après-midi doivent notamment devenir payantes pour les parents d'élèves. Et on finit avec l'Allemagne, où à Berlin, l'aéroport Tempelhof a fermé définitivement jeudi soir. C'est une page historique qui se tourne dans le cœur des Berlinois. Tempelhof est l'aéroport du pont aérien qui permit aux habitants de l'Ouest de résister au blocus soviétique de 1948-1949. Au début du XXe siècle, il était le plus grand aéroport d'Europe. Mais ce symbole de la mégalomanie d'Adolf Hitler avec son monumental terminal de 1,2 km de long était devenu trop coûteux. En 2007, il n'a accueilli que 350 000 passagers, contre 19 millions dans Tegel et Schönefeld, les deux autres aéroports de la ville. D'ici à 2011, la municipalité prévoit d'ouvrir un aéroport unique, le Berlin-Brandenburg International, sur le site de Schönefeld. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez-moi mercredi pour un flash européen après les résultats des élections américaines.
Merci Simon. Il semblerait que Nancy se soit mise à la politique verte. Vous avez sans doute remarqué depuis peu l'implantation du Vélib à Nancy. Il y a deux raisons à cela. Ou bien vous vous faites doubler au volant de votre voiture par des cyclistes du dimanche et vous en avez marre de voir des garages à vélo implantés un peu partout dans la ville. Ou alors vous êtes plutôt un fervent défenseur de l'environnement et vous voulez lutter contre la pollution tout en entretenant votre forme physique. Avant d'écouter François Werner sur la politique verte à Nancy au micro d'Irina, on écoute un petit peu de musique. Laissez-vous tenter par un exemple typique de rock britannique. Il s'agit du mythique groupe des Pink Floyd avec le titre Bike, sorti en
I've got a clan of gingerbread men here among.
Nos amis d'Outre-Rhin sont connus pour leur esprit très écologique. Les panneaux solaires, les éoliennes, les vélos fleurissent aux quatre coins de l'Allemagne. Et Nancy là-dedans ? La frontière n'étant pas très loin, on peut se demander si nos amis allemands ne sont pas pour quelque chose dans la transmission de cet héritage singulier. Pour mieux comprendre cette évolution, on écoute dès maintenant les propos de François Werner, recueillis par Irina, sur la politique verte de Nancy. Monsieur Werner est effectivement président de la commission Attractivité et Compétitivité du territoire au Grand Nancy. Il est aussi conseiller municipal de Villers-lès-Nancy.
Depuis l'année dernière, on peut louer des vélos Stan à Nancy. Depuis cette année aussi des Vélib. Pourquoi est-ce qu'on prend ces mesures ?
Si on veut développer des modes de transport alternatifs à la voiture, il faut aujourd'hui qu'il y ait un effort qui soit fait par la puissance publique. Pourquoi ? Parce que y a des choses toutes bêtes, les gens sont pas forcément équipés, les gens n'ont pas forcément la possibilité de ranger des vélos chez eux, par exemple. Beaucoup de gens aussi craignent le vol. Et je crois que les étudiants étrangers ont été très surpris, notamment les étudiants allemands, de se rendre compte qu'en France, hein, pas qu'à Nancy, en France, on vole les vélos. Et donc la possibilité de les louer pour une courte période ou pour une longue période, c'est quelque chose qui est véritablement attractif et important.
Quelles sont les autres mesures que prend Nancy pour protéger l'environnement, pour avoir une politique plus verte ?
Alors c'est bien d'avoir des vélos, mais c'est encore mieux d'avoir aussi les moyens de les faire circuler, donc d'avoir des zones où ils peuvent circuler en sécurité. C'est la politique des pistes cyclables d'un côté, la politique aussi sur l'hypercentre de Nancy d'une zone 30, assez étendue, qui a peut-être un peu surpris parfois les automobilistes, mais qui est véritablement efficace pour permettre aux vélos d'aller partout alors que les espaces sont assez restreints. Et puis c'est une troisième chose, c'est faire connaître aussi ces mêmes itinéraires vélos. Je descendais tout à l'heure en voiture, j'aurais pas dû le faire, mais par une rue qui est très fréquentée, qui ne se prête absolument pas à la circulation cycliste, et je voyais deux cyclistes qui n'étaient absolument pas à leur place, puisque dans la rue parallèle, il y a une piste cyclable, elle, beaucoup plus sûre pour eux.
Si on compare la France à d'autres pays européens, est-ce que vous pensez que les Français utilisent beaucoup le vélo ?
Beaucoup moins. Il faut être honnête, beaucoup moins. Je pense que ça tient à certaines habitudes.
Nancy se trouve dans une région transfrontalière, donc les influences étrangères sont fortes. Et aussi, comme vous avez dit, par les étudiants étrangers qui viennent à Nancy. Est-ce que cette expansion des vélos, est-ce que ça a été encouragé par l'influence étrangère ?
Je crois qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris, effectivement, notamment notre situation transfrontalière, mais des étudiants étrangers qui ne sont pas tous d'aussi proches voisins que, par exemple, les Allemands. Quand Sciences Po, au départ, est venu nous demander de participer à la réalisation d'un garage à vélo. Ici, et moi le premier, on a regardé ça de façon un petit peu sceptique, en se disant, bon, pourquoi donc, ils sont en pleine ville, après tout, etc. Aujourd'hui, ce garage à vélo, il est plein. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis la quasi-totalité des sites universitaires, que ce soit des sites d'études ou des sites de logement ou des sites de restauration, nous ont demandé, là aussi, de réaliser ces aménagements pour pouvoir accueillir en sécurité les vélos des étudiants. Et aujourd'hui, le dernier équipement qui vient d'être fait, c'est celui de l'école des mines, qui nous a fait part de sa très très grande satisfaction parce que la simple arrivée du garage fait que la pratique vélo arrive aussi. Et aux personnes qui disent parfois, vous faites des pistes cyclables mais il n'y a personne dedans, la réponse, elle est très simple. Elle est de dire que si on ne les fait pas, il n'y aura jamais de vélo. Ça, c'est sûr.
C'était donc Monsieur Werner, président de la commission Attractivité et Compétitivité du territoire au Grand Nancy, conseiller municipal de Villers-lès-Nancy par la même occasion, au micro d'Irina. Je suis certaine que tous les usagers de Vélib sont très très satisfaits par cette récente implantation. Mais bon, ce qui serait pas mal non plus, ce serait de savoir où se trouvent les vraies pistes cyclables. J'ai un message très important à vous transmettre, chers auditeurs. J'ai eu mon permis de conduire il y a 2 jours à peine et je tiens à vous mettre en garde. Faites bien attention sur la route. Je tiens effectivement à ce que vous ne fonciez pas tous tête dans le guidon et que vous restiez prudents quoi qu'il arrive. Et oui, c'est vrai que le nouveau film de James Bond est sorti cette semaine, mais il va falloir, une fois sur la route, tempérer ses ardeurs. On continue dans la bonne humeur avec un petit air de musique. Voici tout de suite le titre « La bicicleta » du groupe Colcha Candela, qui est une formation reggae alemano-colombienne de Berlin. Le morceau est extrait de leur album de 2005, Next Generation.
Yo digo, yo digo, yeah. Esa bicicleta,
bicicleta,
hace toda toda la más bella. Ahora le toca, toca ir con buseta. Me robaron mi doble rueda, no tengo plata. Cuando llegue a mi casa la paliza que me espera. Mejor me voy bien tarde, duermo en el garaje. Temprano rumbo al parche a buscar mi bicicleta. Pues ella me hace falta, la angustia me desgasta. No sé lo que me pasa.
¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá?
¿Qué le digo a mi mamá?
¿Qué dice así?
Na, 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 na. Ajá, ajá. Na, 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 na. Uepa, ayúdame, Nando.
Na, 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 na.
Uepa, así me gusta.
Na, 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 na. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta, me robaron la bicicleta.
Me robaron
la bicicleta.
Avísame.
La bicicleta,
la encuentra.
La bicicleta, ¿qué voy a hacer sin mi bicicleta?
Siempre iba a comprar el desayuno con mi
bicicleta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese día? A las 5 de la mañana.
Salgo de la disco y qué gran sorpresa.
Alors, chers auditeurs, vous a-t-on convaincu par les attraits de la bicyclette? Ou encore pas tout à fait? Dans ce cas, attendez notre prochain reportage pour découvrir comment les choses se passent à l'étranger. Pour poursuivre avec le thème de la politique verte, on écoute Sophie de Freiburg qui va nous en dire un peu plus sur les habitudes de vie et plus particulièrement les habitudes de transport. Freiburg, la fameuse ville verte, éveille notre curiosité.
Le matin, lorsque le soleil se lève sur la petite ville au pied de la forêt noire, on entend les oiseaux chanter et surtout, on n'entend pratiquement pas un bruit de moteur. En revanche, on voit un nombre incroyable de personnes pédalant à toute allure sur la route. Et oui, Fribourg, c'est avant tout une ville verte avec beaucoup de pistes cyclables et énormément de vélos. Mais ce n'est pas comme en France, où il faut avoir peur à chaque seconde de se faire renverser par une voiture qui nous frôle avec une vitesse sentie de 100 km par heure. Non. À Fribourg, les cyclistes sont les rois de la route. On se déplace plus en vélo qu'à pied ou en voiture. À tel point que lorsqu'on veut aller boire un café, un beau jour ensoleillé, comme tous les étudiants de cette ville, on a du mal à trouver une place pour se garer. Fribourg, c'est la seule ville en Allemagne qui a un maire vert. Il a été élu avec 65% des voix en 2002, ce qui montre que Fribourg est vraiment une ville très engagée écologiquement. Il a fait construire une ligne de tram alors qu'il y en avait déjà 4 pour 250 000 habitants. Aussi, il a permis d'installer 2 éoliennes sur une montagne environnante. Mais il n'a pas pour autant délaissé l'énergie solaire. En effet, à Fribourg, c'est le deuxième moyen de produire de l'électricité. À tel point qu'il existe tout un quartier, appelé Vauban, où toutes les maisons possèdent des panneaux solaires sur le toit. Les voitures doivent se garer dans un parking à l'entrée du quartier. Devant les maisons, on trouve des jardins, des allées et des terrains de jeu pour les enfants ou encore des places de marché. Bien sûr, comme le maire est vert, la plupart des fribourgeois votent vert et beaucoup d'entre eux sont de vrais alternatifs un peu hippies sur les bords. La politique familiale est donc très importante. On trouve beaucoup d'enfants ici, particulièrement à Vauban, le quartier sans voiture où la plupart des maisons écolo sont louées ou achetées par des familles. Ce n'est donc pas une ville pour les vieux couples qui ne veulent pas être dérangés par des cris d'enfants. Ce qui pose un grand problème à la mairie et à la plupart des habitants, d'ailleurs, c'est la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. Elle se trouve bien sûr directement à la frontière et elle est maudite. Donc, automatiquement, que font les jeunes? Ils défilent dans les rues. Ceci pour dire que les manifs, ça fait partie des mœurs. À Fribourg, mis à part les enfants, les panneaux solaires et les éoliennes, on trouve aussi d'innombrables petits magasins bio, avec toutes sortes de produits exotiques mal connus en France et adorés là-bas. On mange souvent du tofu à la quinoa ou encore du mil avec des légumes bio, à des prix accessibles même aux étudiants. Enfin bon, il existe toujours et encore le sandwich à la saucisse pour ceux qui détestent le tofu. Et attention, ce n'est pas tout. En France, le tri des poubelles ne s'instaure que très lentement. À Fribourg, ça fait 20 ans que ça fonctionne, et pas qu'un peu. En tant que vrai fribourgeois, il se doit d'avoir 6 poubelles. Une poubelle bio, une pour le plastique, une pour le papier, une pour le verre, une pour le reste. Ça prend peut-être beaucoup de place à la cuisine, mais que ne ferait-on pas pour l'environnement ? Aussi, on trouve pas mal d'endroits très agréables dans cette ville. Dans les parcs et forêts, on trouve beaucoup d'habitants qui profitent du soleil. Et bien entendu, les cafés du centre-ville sont remplis d'étudiants en été comme en hiver. En plus, en trois quarts d'heure, on est à Bâle en Suisse, à Colmar en Alsace, en pleine forêt noire ou encore dans les vignes de la plaine du Rhin, que je conseille aux amateurs de bon vin. Alors, comme c'est seulement à 170 km, pourquoi ne pas y faire un petit détour? Histoire d'apprendre à trier les poubelles et à faire du vélo.
Quand je vous dis vélo, vous pensez à quoi? Vraiment qu'à l'écologie? Et la fameuse épreuve sportive du Tour de France? Ici, chez nous, on entend souvent parler de l'exceptionnel mérite et des prouesses faites par les coureurs, sans oublier malheureusement ces tristes scandales de dopage. Comment est-ce que cet événement sportif tant attendu et paradoxalement si critiqué a été médiatisé en Allemagne? Laura va nous en dire un peu plus sur le Tour de France, observé par nos chers voisins allemands. Mais avant cela, je vous propose encore un petit peu de musique. Nous avons parlé tout à l'heure de Freiburg. On écoute sans plus attendre une chanson portant le nom de cette charmante ville, Freiburg, qui est la première chanson du tout premier album, Digital Spessa, du groupe Tokotronic. C'est un groupe indien de Hambourg, dont le chanteur sait de quoi il parle, puisqu'il est originaire de Fribourg.
Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Fahrer dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es. Und ich find es sogar cool. Und ihr demonstriert Verbrüderung. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Backgammon Spieler dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es. Und ich find es sogar cool. Und ihr demonstriert Verbrüderung.
Que de bonne musique diffusée sur l'émission européenne de Radio Paget. Vous venez de nous rejoindre? Ne ratez pas tout de suite notre chronique exclusive sur le Tour de France. Laura va décrypter pour nous ce phénomène à travers l'œil de la télévision allemande.
Effectivement, le Tour de France n'est pas seulement l'événement annuel préféré par nos fans de vélo, mais aussi les plus célèbres du monde sportif, juste après les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques. Le Tour est de retour avec un nouveau parcours. Avec les grands départs au Monaco, le Grand Boucle 2009 va prendre du soleil tout au long de la côte. Les meilleurs cyclistes vont passer à Marseille et la Grand Motte, puis à Montpellier et Perpignan. Mais le Tour ne restera pas en France. Nos voisins en Espagne vont avoir le plaisir de saluer Lance Armstrong de la Macquarie Pass à Barcelone. Et aussi l'Andorre et la Suisse font partie de ces spectacles. Donc, un parcours plus européen que d'habitude. Cependant, tradition oblige, les derniers kilomètres resteront toujours les Champs-Élysées à Paris, où le gagnant va fêter sa victoire sous l'Arc de Triomphe. Mais tout d'abord, il faut surmonter tous les obstacles, dévancer la concurrence dans les 21 étapes sur 3500 km. Petite perfidie, le Tour 2009 sera plus exigeant. Les cyclistes doivent prouver leurs endurances au Mont Ventoux juste 24 heures avant l'arrivée à Paris. Ils doivent avoir une condition extraordinaire, ces sportifs. Ou peut-être ce sont des petites pilules qui les aident. Les scandales de dopage dans les dernières années ont montré qu'il y a de nombreux coureurs qui ne comptent pas entièrement sur leur capacité physique naturelle. Au contraire, ils violent la règle de fair play avec des médicaments comme l'EPO ou les testostérone. Les scandales de dopage ont dominé la couverture dans la presse du Grand Boucle. Des grands scandales, il y en avait en 1998, L'équipe complète de Festina est dopée. Même le septuagénaire Lance Armstrong est sur les soupçons. En début du scandale, les tours est transmis dans plus de 70 pays et environ 160 chaînes de télé. En 2009, deux chaînes vont manquer. Les deux chaînes publiques allemandes, ARD et ZDF, ont décidé de ne pas transmettre en direct le Tour de France en 2009. Quelle décision? Une décision hâtive? Déjà en 2007, le ARD et le ZDF ont pris les dopages d'un coureur allemand comme raison pour arrêter la transmission. La continuation des dopages en 2008 a relancé les débats. Finalement, le Tour de France, les spectacles en direct, va être accessible pour les Allemands, seulement pas la chaîne Eurosport. Les deux chaînes allemandes sont les premiers à protester contre un sport dominé par les dopages. Le Tour de France a perdu sa valeur sportive, comme le chef de ARD Fritz Reff. Mais la décision énergique va être débattue avec l'Union européenne des radio-télévisions. En effet, l'Union a prolongé le contrat avec le Tour jusqu'à 2011, sans consulter l'ARD et le ZDF. En attendant les négociations, l'ARD s'est refusé à tout commentaire. Est-ce qu'ils vont encore revenir sur la décision? On ne sait pas, mais le boycott peut être une démarche exemplaire pour renforcer des contrôles plus stricts qu'on était promis par les organisateurs. Et qui sait, dans quelques années, on va retourner à un Tour de France qui a des mains propres et des sportifs honnêtes. Alors, vive le cyclisme!
Eh bien, merci Laura. Après un peu de vélo à la télé, un peu de musique à la radio. On va vous faire partager avec grand plaisir le morceau allemand Hier sein de Ketka. Europe'n'Roll est maintenant fier de vous présenter une nouvelle radio partenaire, Euradio Nantes. Le nom parle de lui-même. Il s'agit d'une radio européenne basée dans la très jolie ville de Nantes, en Loire-Atlantique. Autre particularité, c'est une radio-école. Les stagiaires viennent des quatre coins de l'Europe pour se former au journalisme radiophonique. Dans la rubrique « Parlons de l'Europe », retrouvez une interview avec Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'État aux affaires européennes. C'est un sujet de nos collègues nantais Cyril Douillard et Rémi Parola.
Jean-Pierre Jouyet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire d'État aux affaires européennes. les priorités de la présidence française de l'Union européenne, essayer de faire un point à mi-parcours, puisqu'on se trouve déjà presque à la mi-octobre. La première question qui se pose, c'est le traité de Lisbonne et les élections européennes qui arrivent en juin 2009. L'Irlande a décidé de repousser les propositions de solutions au Conseil de décembre. Est-ce que, selon vous, le traité de Lisbonne peut entrer en vigueur d'ici les élections européennes ?
Il n'avait jamais été prévu de traiter l'ensemble du cas irlandais au Conseil européen d'octobre. Il faut trouver une solution politique et si possible un agenda au Conseil européen du mois de décembre. Faire en sorte que le traité de Lisbonne puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible et si possible avant les élections européennes. États membres ont ratifié, la Suède devra ratifier prochainement et la République tchèque, qui assurera la présidence de l'Union européenne au 1er janvier, devrait être en mesure de ratifier à la fin de l'année. Donc nous essaierons de trouver le calendrier le plus ajusté possible et le plus rapide possible avec nos partenaires irlandais.
Sur les négociations sur le paquet énergie-climat, la crise financière semble remettre un petit peu en cause. On a le sentiment qu'on freine un peu des cas de fer, aussi bien en Allemagne qu'en France, quant aux objectifs initiaux du paquet énergie-climat. Sur les négociations, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ?
Ben, on freine, un peu plus d'un côté que de l'autre quand même, hein,
ouais.
Si je suis objectif. Et ce qui est important pour la présidence française, c'est de garder les objectifs et les principes, faire en sorte qu'il y ait 20% en moins d'émissions, faire en sorte qu'il y ait 20% en plus d'énergie renouvelable, 20% en plus d'efficacité énergétique. Bon, alors il y a des économies et des industries qui souffrent plus compte tenu de la crise actuelle, et il faut qu'il y ait bien évidemment les flexibilités qui soient nécessaires pour prendre en compte la situation d'un certain nombre de secteurs industriels ou d'économies, type les économies d'Europe centrale et orientale, qui sont effectivement dans des situations plus fragiles sur le plan énergétique que d'autres.
Est-ce qu'on se dirige vers une réponse européenne plus coordonnée sur la crise financière ?
Le fait que nos partenaires aient accepté à Paris une réunion au niveau de l'Eurogroupe, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, montre que, alors que cette proposition faisait débat il y a 6 mois, le fait qu'elle soit acceptée aujourd'hui par tous nos partenaires est déjà un signe de coordination. Le fait que cette réunion se tienne en soi est déjà une manifestation au sein de la zone euro d'une coordination de réponse face à la crise qui n'est pas seulement financière mais qui est aussi économique.
Merci beaucoup, Monsieur Juillet.
Merci à vous.
C'est fini pour Europe & Roll aujourd'hui. N'oubliez pas qu'une émission spéciale directe aura lieu sur les élections américaines ce mercredi 5 novembre de 16h à 17h. Retrouvez-nous également dimanche pour la sélection des meilleurs temps forts du débat de mercredi. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions, nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur padjet.net ou europeandroll.eu. Passez du côté funky de l'Europe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 13h30 sur Padjet.